France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Parmi les joyaux de l'archéologie, il y a Pompéi en Italie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2015, les recherches concernent des zones complètement inexplorées. Que nous racontent les maisons pompéiennes de la vie quotidienne de cette cité ? Automne de l'an 79, le Vésuve explose. En l'espace de 48 heures, la ville et les habitants sont figés dans le temps par l'éruption. Aujourd'hui, c'est un instantané unique sur le monde de la Rome antique. Tout est là. Les pains dans les fours, les casseroles sur les fourneaux, les affiches électorales, les graffitis sur les murs des bordels et les silhouettes des victimes. Fouillé depuis 300 ans, le site est une mine d'or pour les archéologues. Les découvertes récentes nous donnent à voir une ville en pleine reconstruction. Au moment de sa disparition, 17 ans plus tôt, Pompéi avait déjà été frappée par un séisme meurtrier. Pompéi, une nuée de découvertes. Hélène Dessalles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en archéologie à l'ENS, professeur associé à l'Université de Lausanne et spécialiste de l'architecture romaine, responsable de programmes de recherche à Pompéi. Dominique Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et historien, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et président de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive depuis 2014. Emmanuel Bott, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du Centre Camille Julian à Aix-en-Provence, ancien membre de l'École française de Rome, spécialiste de l'artisanat et du commerce à l'époque romaine. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en podcast à toute heure. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont les grandes questions scientifiques qui animent les recherches là-bas en ce moment ? Peut-on aborder Pompéi comme la norme d'une ville romaine ? Et comment reconstituer fidèlement ce qu'il s'est passé ce jour-là ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment la ville a-t-elle disparu en l'an 79 ? C'est notre archive du jour.
À août de l'an 79 après notre ère, sous le règne de Vespasien, un empereur bourgeois et débonnaire, sur les bords enchanteurs du golfe de Naples, la vie était calme, facile, ordinaire. Le pays était riche de son vin et de ses grains, le commerce prospère, les villes tranquilles. On avait oublié les effets du tremblement de terre dévastateur de l'an 62. Brusquement, dans le grondement des secousses sismiques, le Vésuve, volcan qu'on croyait éteint et qui était alors couvert de vignes et de bois, se couronna d'une haute nuée d'un blanc brillant, tandis que des flammes et des colonnes de feu descendaient de la montagne. Puis vinrent des pluies de cendres chaudes et de pierres ponces. Pline l'Ancien, accouru en curieux, trouva la mort sur le rivage où il avait abordé. Trois villes prospères furent en quelques heures ensevelies, Herculanum, Stabie, Pompéi. Puis, très longtemps, au-dessus de leurs murs, des paysans vécurent et récoltèrent. Enfin, depuis deux siècles environ, avec une technique toujours plus perfectionnée et délicate, des générations de fouilleurs s'efforcent de retrouver ce qui, à Pompéi surtout, fut le cadre d'une vie locale brusquement arrêtée au premier siècle de notre ère.
Voilà un extrait de l'heure de Culture française diffusée sur la RDF en 1953. Hélène Dessalles, pour compléter ce récit, que s'est-il passé ce jour-là ?
Alors, ce fut long, sûrement, pour les habitants qui se trouvaient à Pompéi. L'éruption s'est déroulée en plusieurs étapes. Donc, il y a eu d'abord une pluie de lapilli. Ils ont dû être surpris, ils ont cherché à s'abriter.
C'est un petit morceau de lave, hein, c'est ça ?
Voilà, des micro-pierres ponces qui sont donc retombées de ce champignon au-dessus du Vésuve qui s'est effondré. Elle s'est intensifiée et puis le lendemain, il y a eu vraiment eu ce qu'on appelle la coulée pléroclastique. Ça veut dire que celle-là, ça va vraiment être un mélange de cendres, de gaz extrêmement chaud qui va donc s'abattre sur Pompéi, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Vésuve, qui va ensevelir totalement Herculanum, qui est plus près du Vésuve, avec cette espèce de gang éruptive qui va recouvrir le site sur plus de 25 mètres, alors que Pompéi, on est autour de 6 mètres. Et ce qu'on ne sait pas, c'est combien d'habitants ont réussi à échapper à cette catastrophe, en fait. C'est une vraie question actuellement à Pompéi sur le nombre d'habitants. On a retrouvé à peu près plus de 1000 squelettes, mais c'est finalement assez peu par rapport à ce qu'on imagine de la population. Et une inscription qui a été découverte très récemment nous donne une indication, puis c'est un haut personnage de Pompéi qui dit qu'il a offert des banquets pour au total 456 lits, si je me souviens bien. Et ces 456 lits pour les banquets, ce qu'on appelle les triclinia, abritaient chacun 15 hommes. Donc je ne peux pas faire ici la multiplication, mais en gros, on est autour de moins de 7000 hommes. Il faut rajouter les femmes, ceux qui ne sont... Je ne parle que des citoyens, ici des non-citoyens. Donc on serait maintenant à une évaluation de presque 35 000 habitants, ce qui est trois fois ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. Donc c'est un vrai enjeu aussi de comprendre, en fait, effectivement, qu'est devenue la ville après. Et pour finir, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a oublié, en fait, le désastre. Pompéi est recouverte. Et alors, il y a quelques opérations où on essaie de retrouver des matériaux, d'ailleurs, qui sont organisés par le pouvoir central. Mais, en fait, on oublie peu à peu l'origine du site, si bien que lorsqu'on fouille, on sait que ça s'appelait, en italien, la colline, la ville colline. Mais on ne savait plus que c'était Pompéi. La mémoire du nom s'était perdue. Et ça, je trouve que c'est vraiment très surprenant. Mais c'est aussi la réalité. C'était, comme on l'a dit, devenu un paysage agricole.
Paysage agricole et puis un paysage lunaire aussi, peu de temps après le drame, la tragédie. Alors justement, cette réestimation du nombre d'habitants, vous avez fait partie, Emmanuel Bott, de ce travail-là, avec justement cette pierre, cette tombe aux abords de la ville. Donc on penche plus sur à peu près 35 000 habitants, mais qui étaient les victimes, qui étaient les Pompéiens ?
Ça, c'est toute la question et on aura... jamais la réponse exacte. Ce qu'on sait, c'est que par rapport à cette inscription que citait Hélène, donc on est c'est ça, autour de 7000 citoyens auxquels s'ajoutent en effet autant de femmes, d'enfants et surtout d'esclaves. Donc ce qu'il faut considérer aussi, c'est que l'estimation de 35 000 à 40 000 habitants, elle inclut Pompéi et son territoire. Donc tout ce qui concerne les villas qui sont hors des murs de Pompéi. Donc intramuros, je crois qu'on est toujours autour d'environ 20 000 habitants. Mais donc la difficulté, c'est de savoir qui étaient ces personnes, puisqu'à ce jour, je crois qu'on est autour des 1300 victimes retrouvées. Et donc ça veut dire que sur au moins 20 000 intramuros, il en manque quand même quelques-uns, donc on peut au moins espérer pour eux qu'ils aient réussi à s'échapper.
Oui, puis vous avez aussi participé à de récentes... Vous êtes intéressé à des analyses qui cassent un peu les idées reçues sur les récits romancés qui ont été tissés à partir des moulages, leurs formes, ces images qui sont très, très iconiques de ce site archéologique, Emmanuel Bott.
Oui, alors... Il faut commencer par le fait que les moulages que l'on connaît de Pompéi, on doit ça à Giuseppe Fiorelli, qui en 1860, si je ne me trompe pas, il devient le directeur des fouilles de Pompéi. Et donc, il effectue beaucoup de choses qui vont rester, notamment s'il est le premier à mettre en place un plan normé de Pompéi avec les adresses qu'on utilise encore aujourd'hui pour repérer les maisons. Il met fin aussi au démontage systématique des peintures qui étaient jusque-là envoyées au musée de Naples. Il met en place un système de préservation des peintures sur place. Et puis, donc, il est l'inventeur, on va dire, de cette technique des moulages des corps, puisque lorsque les corps des victimes de Pompéi, qu'elles soient mortes sous les lapillis ou par asphyxie dans la seconde vague, les cendres qui les ont enveloppées, en fait, ont fait comme une espèce de coffrage de leur corps. Et donc, ensuite, la nature a repris ses droits, donc les corps se sont décomposés. Donc à l'intérieur, il n'y a plus que les squelettes, mais il y avait cette espèce de gang, de coffrage en cendres. Et donc Fiorelli a l'idée, quand il voit apparaître ces trous et ces squelettes à l'intérieur, de faire couler du plâtre liquide dedans, ce qui du coup va mouler ces corps et donc donner vie, malheureusement, à ces victimes dans leurs derniers instants à Pompéi. Et donc récemment est sorti un article justement qui s'intéresse aux analyses ADN et isotopiques sur ces individus-là. Et donc, ça n'a donné des résultats que sur 5 individus, parmi les 1300 victimes. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a donné des résultats sur 4 victimes qui ont été découvertes dans la maison du Bracelet d'Or à Pompéi, et qui est une maison qui donnait sur l'ouest de la ville. Et donc, on a trouvé 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, au pied de l'escalier qui quittaient la ville. Et donc, le récit faisait que... C'était évidemment un couple avec ses 2 enfants qui cherchait à fuir la catastrophe.
Et pas du tout.
Et
les analyses
montrent
que non.
Les analyses ADN ont montré qu'il s'agissait de 4 individus, donc bien 2 adultes et 2 enfants, mais tous de sexe masculin, et surtout qu'il n'y avait aucun lien de parenté biologique entre eux. Et donc, ça met fin au récit qui va avec sur le fait d'une gentille famille qui cherche à fuir l'éruption. Mais il faut aussi s'arrêter là, pour nous, de notre côté, à ne pas chercher à surinterpréter ça, et en faire autre chose.
En effet, des analyses isotopiques qui montrent aussi, qui retracent l'origine géographique des individus. Donc très peu d'individus, vous venez de le dire. Mais résultat, on a quand même des gènes aussi en provenance de Méditerranée orientale qui ont été mis en évidence. Ça, Dominique Garcia, est-ce que ça signifie que Pompéi pourrait être l'illustration du caractère hétérogène de la population romaine de l'Antiquité ?
L'illustration, mais un exemple parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce que dès le début de notre conversation, On parle d'un site archéologique, on parle des gens, c'est rare. Donc c'est ça la force de Pompéi, c'est en fin de compte de se sentir proche de ces ruines, parce qu'il y avait des personnes, parce qu'effectivement il y avait des moulages, et du coup on s'intéresse à ces personnes, donc effectivement les 7000 citoyens, mais du coup aujourd'hui on s'intéresse aux gens qui vivaient intramuros, mais aussi extramuros, ce qui est une nouveauté, parce que pendant souvent Pompéi c'était que la ville, là aujourd'hui on aborde la ville et la campagne, et puis aujourd'hui ces analyses qui nous montrent que c'était la ville, la campagne, mais aussi un port. Si cette ville est importante avec beaucoup de luxe, c'est parce qu'il y avait du commerce, de l'huile, du vin, etc. Et donc du coup, s'il y avait du commerce, il y avait des gens qui bougeaient, et la Méditerranée était un espace partagé durant cette période-là, donc oui, effectivement, des ADN qui nous pousseraient vers la Méditerranée orientale, et donc peut-être vers l'Égypte si on voulait tenter une hypothèse, mais de toute façon, la base statistique est courte. En tout cas, là, on a un exemple de ce que demain l'archéologie peut apporter avec ses études ADN sur une grande série de personnes. Quand ça sera un peu plus représentatif, on en voit aujourd'hui le potentiel plus que la réponse vraiment arrêtée.
Et on reviendra évidemment dans quelques instants sur les promesses de l'archéologie concernant ce site. Mais pour revenir un peu sur l'histoire justement de Pompéi, Hélène Dessalles, quelle est la première implantation urbaine de Pompéi ? Enfin, elle date de quand ?
Alors c'est une question difficile qui a été abordée surtout par des fouilles plutôt récentes. Le premier noyau, alors on ne peut pas vraiment appeler ça une ville en fait, mais au moins d'un habitat assez dispersé remonterait au courant du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a déjà toute l'enceinte qui est présente, qui dessine une superficie de 60 hectares environ, mais c'est un habitat dispersé, des noyaux différents, des grands sanctuaires qui jalonnent la ville, mais tout n'est pas loti. C'est un lotissement qui va se faire de façon très progressive, en fonction donc vraiment des évolutions de la ville, des dominations successives, donc un peuple local qu'on appelle les Samnites, et Pompéi devient une colonie romaine. Donc dans les années 80 avant Jésus-Christ, et donc là elle a vraiment la vocation de reproduire une sorte de petite Rome avec des édifices donc qui rappellent aussi donc la ville de Rome, et ensuite différentes transformations qui vont la donner un caractère très monumental au site. Et comme le disait c'est vrai qu'il y avait cette dimension de port, et c'est une ville aussi un peu en promontoire sur une ancienne butée volcanique qu'on voit de loin, qu'on voit depuis le fleuve en contrebas qui est le Sarno, et qu'on voit depuis la mer aussi. Et il faut imaginer qu'on voyait donc ces sanctuaires, cette ville assez florissante, d'assez loin.
Là, par rapport à cette âge d'or que vous avez évoqué, l'évolution de la ville, il y a quand même aussi cet instant important qui est donc en 62, l'an 62. Pompéi est déjà une zone à risque, Dominique Garcia. Il y a un premier tremblement de terre qui est déjà un avant-signe de ce qui va se passer par la suite.
Bah oui, il y a ce tremblement de terre qui surgit. Après, l'éruption volcanique, elle n'est pas née de rien. Donc, les habitants de Pompéi n'avaient pas de vue aérienne. Mais aujourd'hui, que nos auditeurs regardent une vue aérienne du secteur, le volcan, il est bien visible. Donc, les gens se doutaient qu'il pouvait se passer quelque chose. Donc, là aussi, c'est intéressant. C'est une perception du risque. Comme aujourd'hui, on peut, malheureusement, habiter en bordure d'une rivière, habiter dans un endroit sismique, on le sait. Voilà, ma maison, moi, est sur un endroit où il y a eu un tremblement de terre important il y a un siècle qui a fait de nombreux morts, et on y habite et on le sait, ça peut revenir demain. Et donc les gens savaient qu'ils habitaient dans une zone à risque, en avaient le sentiment, étaient, et Hélène peut nous en parler, réparer la ville au moment où il y a eu l'éruption. Donc c'est une ville qui vit, c'est une ville dont on a pu dire qu'elle avait été enterrée vivante avec tous les stigmates de ce que peut être une ville, avec un objet qu'on peut étudier en tant que tel. Tout à l'heure, vous posiez la question de quand date Pompéi. C'est une fabrication, c'est un objet. L'homme existe depuis plusieurs millions d'années, la ville existe depuis 10 000 ans, et dans nos secteurs depuis 2600 ans. Donc c'est une idée neuve, et on construit une ville, on construit un rempart, ça se peuple petit à petit, ça se structure, ça grandit, et puis de temps en temps, il y a des tremblements de terre, et de temps en temps, il y a des éruptions, et puis la fin d'une ville. La ville est un objet mortel et un objet qui peut s'arrêter à un moment donné.
Parce que, en effet, un premier tremblement de terre en 62, un séisme quand même de 8 sur l'échelle de Richter, 70 rebelote, autre séisme. Là, on a quand même un grand nombre d'habitants qui quittent les lieux, qui trouvent le site trop dangereux. Mais Hélène Dessalles, pourquoi Pompéi aussi bien conservé et pas Herculanum qui est pas trop loin non plus ?
Alors, pour ce qui est du tremblement de terre, en effet, alors on ne sait pas trop la date, 62 ou 63, 70, on n'est pas sûr. On sait qu'il a lieu entre celui au plus tard 63 et l'éruption de 79, sachant qu'il y a eu aussi sans doute des secousses qui ont accompagné l'éruption. Donc il y avait vraiment un cycle, pourrait-on dire sismique, qui fait que les habitants étaient tellement confrontés aux secousses qu'en effet, ils ont, alors malgré tout, visiblement, ils n'ont pas déserté la ville, puisque la ville était en pleine reconstruction. Ça, c'est l'archéologie qui nous le dit, et c'est l'archéologie aussi qui a montré qu'il y avait eu ce deuxième tremblement de terre dans les années 70. Le premier est connu par des textes très connus de deux auteurs, donc Sénèque et Tacite. Le deuxième, on ne le connaît que par l'archéologie. Et ce que nous montre l'archéologie, c'est comment ils ont reconstruit. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que la ville, en effet, était en plein chantier, mais n'était pas désertée. C'était une ville qui restait aussi très artisanale, ça je pense que Emmanuel peut nous en parler, avec vraiment une vocation économique qui restait très forte. Et en revanche, on ne sait pas si finalement ils savaient que le Vésuve pouvait un jour se réveiller, puisqu'en fait l'éruption précédente c'était dans les années 270, donc peut-être que ça ils ne l'ont pas perçu instantanément. Ils étaient habitués aux secousses. Certains textes, notamment Sénèque, nous disent qu'ils ont voulu, certains ont eu tellement peur qu'ils ont fui Pompéi, mais ils sont quand même restés. Et ils ont tenté de reconstruire leur ville, qui voilà, a été inévitablement ensevelie.
Eh bien, ceux qui sont restés, comment ont-ils vécu à Pompéi? Comment les maisons figées dans le temps nous parlent de la vie de ces habitants, de ces élites, de ces esclaves? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Hélène Dessalles, Dominique Garcia, Emmanuel Bott. Nous parlons de Pompéi au 1er siècle. C'est une ville prospère, sans histoire, située dans la baie de l'actuelle Naples, au bord d'une mer poissonneuse et de terre fertile. On vient de parler de son éruption volcanique, de ses 30 000 habitants et de ses 1200 victimes qui ont été retrouvées pour l'heure. On vient aussi d'évoquer les raisons pour lesquelles cette ville est une mine d'or pour l'archéologie. Et l'une des récentes découvertes faites à la mi-janvier, c'est celle d'un complexe thermal privé dans une villa romaine, Hélène Dessalles, une sorte de spa de luxe.
Oui, alors ça, ce sont les nouvelles découvertes et les nouvelles fouilles qui sont menées par le parc archéologique de Pompéi dans ce secteur qui n'est pas le secteur à l'intérieur de... Enfin, ah si, pardon, le secteur thermal, mais vous vous référez à la boulangerie... À la boulangerie à l'intérieur de la ville ou plutôt à la villa à l'extérieur
qui
à la villa. Donc ce secteur, donc c'est vraiment là le parc archéologique, par ses nouvelles fouilles, nous fait découvrir justement cet autre Pompéi qui est hors des murailles, ce territoire où il y avait aussi beaucoup sans doute d'habitants. Et effectivement, un secteur thermal particulièrement bien préservé. On a aussi dans ce même ensemble un char qui a été fouillé, dégagé et qui a donc révélé tout son décor, toute sa structure, mais aussi, et ça c'est le contrepoint, il y a le secteur thermal, il y a la dimension d'une villa sans doute aristocratique, mais on a aussi des chambres et un habitat beaucoup plus modeste, avec une chambre qui a été identifiée comme une chambre qui abritait des esclaves, où on a vraiment leur lit à même le sol, trois personnes qui ont été retrouvées ici puisqu'ils ont dégagé les squelettes. Donc c'est cette double vision en fait qu'on voit aussi dans ces villas, avec effectivement des grande pièce de réception, secteur thermal, mais aussi un habitat plus modeste pour les plus humbles. Et le parc archéologique attire beaucoup l'attention maintenant aussi sur cet habitat de Pompéi, cet autre Pompéi, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une récente exposition, qui avait ce nom-là, une autre Pompéi.
Parmi les zones fouillées, particulièrement fouillées, il y a l'insula 10, cet îlot urbain de 3 km². C'est un peu un quartier riche de la ville, hein, c'est l'élite économique qui vit là. Des fouilles y sont menées depuis 2023, on peut peut-être aussi détailler hein, pourquoi ces fouilles sont si intéressantes, Hélène Dessalles.
Oui, alors je pensais que vous y faisiez allusion tout à l'heure. Oui, c'est vraiment un ensemble.
Oui, c'est en effet ici où on trouve une boulangerie prison, un atelier de teinturerie.
Tout à fait. Donc c'est vraiment un ensemble assez complexe. Une maison qui est occupée par sans doute un atelier textile, une boulangerie qui était, et ça c'est une découverte là aussi qui renforce ce que l'on sait de la ville, qui était en plein chantier de construction au moment de l'éruption, puisque les archéologues ont découvert dans l'entrée de la maison des matériaux de construction qui sont alignés. Alors, on a des tuiles posées les unes contre les autres, des moellons en pierre. On a l'impression que c'est les archéologues qui viennent les emporter, mais non. C'était vraiment les travaux en cours, on a retrouvé aussi les outils des maçons qui les ont laissés, des peintures qui n'étaient pas encore achevées. Donc on a vraiment ici un instantané à la fois de ce que devait être une vie, sans doute une fois que les travaux seraient achevés, qui associe l'artisanat, l'habitat, avec aussi une boulangerie qui était, où plusieurs victimes de l'éruption ont été retrouvées, et puis qui devait retrouver sans doute sa dimension de représentation, mais qui n'a donc pas été achevée au moment de l'éruption. Donc c'est vraiment une découverte très intéressante, là aussi menée cette fois-ci à l'intérieur de la ville, vraiment sur le carrefour, un des carrefours principaux de Pompéi.
Mais d'ailleurs, à propos de cette boulangerie qu'on qualifie donc de boulangerie-prison, Dominique Cassia, on peut aussi rappeler que c'était des conditions de travail atroces pour moudre les grains. Enfin, c'était des conditions qui sont décrites, on dirait un peu le 8e siècle des enfers.
Oui, alors c'était le monde romain, c'était la société romaine. Alors effectivement, le touriste, le passant, voit la colonne, voit la fresque, voit le marbre, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière, mais qui fonctionne ensemble. On portera pas un jugement sur ces sociétés-là, mais effectivement, là où on l'a fait tout à l'heure dans le décompte que nous a proposé Hélène, avec les 7000 citoyens, eh ben, il en reste 33 qui n'avaient pas le même statut, qui n'étaient pas cités sur cette tombe et qui faisaient fonctionner la ville. Toutes les villas luxueuses à l'extérieur des murs, bah, c'était autant d'ouvriers, autant d'esclaves qui étaient dans les champs. Si elle était prospère, c'est bien parce qu'il y avait cette mixité sociale voulue ou subie et qui faisait fonctionner la ville en tant que telle. Et ça, Pompéi peut le voir comme tous les détails sur la construction, sur l'artisanat, c'est-à-dire qu'on a une ville en plan, on a ses ruines, mais on a également le mobilier qui permet d'interpréter et d'aller beaucoup plus loin.
Emmanuel Bott ?
Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il ne faut pas oublier aussi que Pompéi, elle est dans la baie de Naples, à une période où le port de Rome, à cette époque-là, c'est Pouzzole, au premier siècle de notre ère. Et donc c'est par là qu'arrivent toutes les marchandises, y compris les esclaves, qui viennent du coup alimenter toute la baie de Naples et aussi Rome. Et donc Pouzzole, c'est le cœur économique de l'Italie à ce moment-là. Et donc beaucoup des produits qui arrivent et qui partent de l'Italie, leur point de départ ou d'arrivée, c'est le port de Pouzzole.
Le regard des fouilles actuelles et qu'on n'avait pas avant, enfin, il me semble, c'est vraiment la vie de Pompéi, des pauvres, du Pompéi des esclaves. Avant, j'ai l'impression que la focale était plus peut-être portée sur la vie aristocratique, l'architecture aristocratique, les élites. Hélène Dessalles, je me trompe ?
Non, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un changement de focale avec aussi ces nouvelles fouilles dans les secteurs qui sont hors de la ville même de Pompéi. Il y a eu, bien sûr, des différents regards, en fait, qui ont rythmé les fouilles de Pompéi. Je dirais, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Emmanuel, que jusqu'à la mise en place des moulages, il y avait surtout une dimension architecturale. On allait voir des ruines et il manquait les habitants dans ces ruines. Mais on ne les cherchait pas vraiment. C'est les moulages qui ont révélé une image d'une cité de la mort, en fait, et qui va changer aussi le regard sur la ville, parce qu'on a une sorte d'instantané de la mort avec ces personnes donc suspendues dans leurs derniers instants. Et donc ça a vraiment dominé avec, effectivement, des fouilles qui mettaient en évidence l'organisation des grandes maisons aristocratiques, la place aussi de l'artisanat, mais les fouilles les plus récentes, en effet, s'intéressent vraiment aussi aux habitants, par des analyses qui permettent de comprendre d'où ils viennent, quel était leur âge. Par exemple, dans cette boulangerie, ils se sont aperçus, en étudiant les squelettes, qu'ils avaient beaucoup de malformations. Il y avait une vieille femme, donc c'est quelqu'un qui avait dû travailler assez longtemps et assez dur. Donc voilà, on touche maintenant vraiment aux habitants.
Emmanuel Bott ?
Puis ce qui est intéressant aussi, pour compléter ce que dit Hélène, c'est que dans les fouilles qui sont menées récemment, il y a eu l'idée aussi de mouler, pas uniquement des squelettes, mais aussi tout le mobilier. Puisqu'au final, les cendres ont moulé tout ce qui allait aller pourrir et disparaître. Et donc on doit aussi aux dernières directions du parc de Pompéi d'avoir eu l'idée de mouler tout ce qui était moulable, on va dire, et donc sont apparus dans les pièces non seulement des corps, mais aussi tout le mobilier qui est avec. Et donc dans les fouilles récentes, les corps se retrouvent au milieu d'espaces qui sont entièrement remplis de meubles. Donc là, c'est l'exemple que donnait Hélène tout à l'heure, avec des lits, des meubles, des couvertures en boule au pied du lit, des sandales au pied des lits. Et donc là, ça prend une ampleur totalement différente.
Dominique Garcia, vous souhaitiez réagir aussi.
Oui, les réponses nous sont données par les habitants de Pompéi. Mais les questions, c'est nous qui les posons. Et donc, si aujourd'hui on parle des pauvres à Pompéi, si on parle des esclaves, si on parle de la campagne, si on parle des travaux d'amélioration dans la ville, c'est parce que c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport aux villes. Et Pompéi est une expérience urbaine achevée. Il y a un début, un milieu, une fin. Et aujourd'hui, quand on s'interroge sur nos villes, dont on ne sait pas ce qu'elles seront demain, du coup, on se retourne vers Pompéi et on se dit comment les gens vivaient ensemble, comment ça fonctionnait, comment on a pu s'agrandir, comment on a pu respecter la nature ou justement, à un moment donné, la défier parce que l'économie était là et on a voulu rester là. Or, le volcan était là aussi. Et donc, toutes ces questions aujourd'hui qui paraissent comme étant neuves, ça montre le renouvellement des problématiques en archéologie qui est apte à nourrir un petit peu notre réflexion, poser les bonnes questions plutôt que de donner les mauvaises réponses, en puisant sur ces vestiges archéologiques qui, du coup, ne sont pas totalement morts.
Puis vous évoquez l'expérience urbaine, il y a aussi cette particularité de ce site, c'est que c'est un lieu, c'est une ville unique, entière à fouiller. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit carré de fouille, Dominique Garcia.
Alors, elle est entière, c'est pas la plus importante dans le monde romain, mais c'est une ville entière que l'on peut explorer. Aujourd'hui, explorer le sous-sol de Nîmes, explorer le sous-sol de Paris, voir le sous-sol de Rome pose des problèmes. Là, on a un laboratoire à ciel ouvert. On a plus de 60 hectares intramuros et bien plus extramuros que l'on peut analyser, explorer. Donc, on a un espace, une sorte de polaroid de l'Antiquité qui n'a pas été perturbé par la période médiévale, par la période contemporaine, dans lequel on n'est pas obligé de se frictionner avec les aménageurs, voire avec les habitants contemporains. Donc c'est un exemple, un modèle, un lieu de réflexion, un laboratoire qui intéresse du coup tous les archéologues travaillant sur l'Antiquité.
Autre caractéristique, Hélène Dessalles, c'est que on a aussi accès à toute la culture matérielle d'une maison, par exemple, mais dans une maison antique. Ça, ce qui est aussi quelque chose de rare en archéologie. Je pense par exemple à la villa de Diomède. Vous avez écrit un livre à ce sujet, le premier bâtiment qui a été fouillé d'ailleurs à Pompéi. Ça aussi, ça fait partie des bâtiments importants pour cette histoire.
Tout à fait. Alors, la villa Diomède, si on s'arrête à cet exemple-là, c'est presque une préfiguration de ce que l'on fait aujourd'hui, puisque le fouilleur de l'époque, on était à la fin du XVIIIe siècle, il a, outre le fait qu'il a fait un plan très précis de ce qu'il avait découvert, c'est une immense villa juste aux portes de la ville, il a fait un inventaire extrêmement détaillé de tous les objets qu'il a trouvés dans la villa en les positionnant en plan, donc plus de 1000 objets, une sorte d'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui un système d'information géographique qui nous permet de comprendre toute la culture matérielle de cette villa et comment fonctionnaient les espaces. Alors, ce qui est troublant, c'est qu'en fait, quand on essaie de voir l'adéquation entre les matériaux retrouvés et puis les espaces, c'est que ça ne marche pas très bien et qu'on voit justement que la villa était en plein chantier. La plus grande, la belle pièce de réception de la villa, elle abritait des matériaux de construction. Donc ça, c'est toujours la particularité de Pompéi. Mais en effet, cette villa est exceptionnelle parce que donc on a pu, en retravaillant cette fois-ci sur les archives de fouilles et non pas sur les fouilles elles-mêmes, comprendre en fait les objets qui étaient conservés. D'ailleurs, pour certains, les retrouver dans le musée archéologique de Naples, parce qu'il y avait vraiment cette volonté patrimoniale très forte dès le XVIIIe siècle d'enregistrer, de conserver les vestiges. Et puis, nous, en tant qu'archéologues, on a aussi essayé de comprendre comment fonctionnait ce bâtiment. Mais ça, je peux vous en parler peut-être tout à l'heure.
En tout cas, quel était le quotidien des habitants de Pompéi? Restez avec nous, on poursuit sur ces questions.
Demande-moi, mon allié, mon ami, le cœur encore fumant des ruines de Pompéi. Tout est à toi, Bergman et Stromboli, des milliers d'incendies sur tes lèvres rubis. Réclame-moi les reflets bleus piscine, les vapeurs d'Italie, nos rires de l'autre vie. Tout est à toi, les frontières invisibles de l'ancienne Vénitie, pour un temps. assagie.
Pays d'Armand Méliès en direct sur France Culture, car nous visitons un site majeur de l'histoire de l'archéologie, nous visitons Pompéi. On en parle avec trois de nos invités, Hélène Dessalles, maître de conférence en archéologie à l'ENS, professeure associée à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'architecture romaine et responsable de programmes de recherche à Pompéi, Dominique Garcia, archéologue et historien, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et président de l'INRAP, Emmanuel Bopt, directeur adjoint du Centre Camille Julien à Aix-en-Provence, ancien membre de l'École française de Rome et spécialiste de l'artisanat et du commerce à l'époque romaine. On évoquait l'artisanat ensemble en première partie d'émission, on parlait du quotidien des habitants des cités antiques. La question du parfum dans l'archéologie a longtemps interrogé. Flacons, fioles et vases ont longtemps intrigué les archéologues qui se demandaient ce que pouvait bien sentir leur contenu. On continue d'en parler avec vous, Noémie Eliazor, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous avez eu l'honneur de pouvoir humer du rhodinone, un parfum très commun dans le Pompéi antique.
En effet, j'ai eu cet honneur. L'archéologie a d'abord permis de comprendre comment fonctionne l'atelier du parfumeur antique. Avec la mise au jour de pressoirs en marbre à Délos en Grèce, on avait déjà pu reconstituer le cheminement du parfumeur depuis l'étape de la cueillette des olives, puis de leur transformation en huile, pour enfin arriver au procédé de l'enfleurage. Évidemment, la question qui s'est posée ensuite, c'est quelle était cette odeur? Pour y répondre, des archéologues et des chimistes se sont alliés afin de reconstituer un parfum, le rhodinone. Ce travail a été mis en valeur au Collège de France dans une exposition consacrée à l'archéologie de la Méditerranée antique. Le commissaire d'exposition Julien Aubert de Lapierre nous explique la démarche.
Les flacons de parfum, on en retrouve dans les chantiers archéologiques sous toutes ses formes, sous toute matière aussi. On en retrouve des grandes fioles à fond plat, des vases pyriformes, on retrouve des vases en verre, en terre cuite. C'est très, très, très divers, mais comme aujourd'hui, dans nos propres flacons de parfum, on a toujours un résidu en fond de bouteille dont on ne pourra jamais rien faire. Et ces résidus existent également dans ces vases à parfum antiques. L'idée donc de l'archéologue, à savoir de Jean-Pierre Brun ici, c'était de se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose de ces résidus? Est-ce qu'on peut analyser ces résidus? Il s'était alors rapproché d'un professeur de l'Institut de chimie de l'Université Côte d'Azur à Nice, Xavier Fernandez, pour justement que des analyses chimiques puissent être faites de ces résidus. Du résultat de ces analyses, mais aussi en mêlant finalement l'approche archéologique et également les sources textuelles, puisqu'on connaissait des sources textuelles pour des recettes de parfums antiques, on a justement, Xavier Fernandez s'est amusé à reconstruire des parfums antiques, et ici pour l'exposition je lui ai demandé de nous restituer donc le rhodinone qui est une huile parfumée à la rose, et donc il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'une effluve effectivement de ce rhodinone sorte et qu'on puisse sentir donc à quoi ressemble donc ce parfum antique.
On va l'essayer.
Je vous en prie.
Effectivement, ça sent la rose.
Ça sent la rose, immanquablement. Ça sent la rose. Sur ce meuble à parfum, on retrouve d'une part la recette antique du rhodinone qui nous est donné par Dioscoride, où l'on apprend donc qu'il faut chauffer cette huile d'olive. Alors, une huile d'olive verte en règle générale, puisque c'est celle qui est la plus à même de conserver les odeurs. Et ensuite, donc son traité sur les plantes médicinales, Dioscoride, nous indique pour cette recette du rhodinone qu'il fallait donc s'enduire les mains de miel et ensuite plonger des brassées de pétales de rose de Damas. Alors Dioscoride nous donne des précisions, puisque pour avoir une senteur très très délicate, très légère. Il fallait au moins 2-3 brassées de roses. Et Dioscorides nous indique qu'il faut s'arrêter à 7. Parce qu'après, le parfum devient astringent, sûrement très désagréable. Et donc, ça gâte le parfum. Donc, il faut refaire effectivement le procédé. Ce qui est amusant de savoir aussi, c'est que voilà. Alors, nous, on se fait une idée aujourd'hui de ce qu'est le parfum, de ce qu'est l'huile parfumée. Alors, dans l'Antiquité, à l'époque impériale, dans le bassin méditerranéen, on en a l'usage aussi comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de plaisant, dont on peut s'enduire, notamment après le bain, hein, à Rome, notamment que nous sommes utilisés comme huile de massage. Le rhodinone avait une utilisation aussi bien féminin que masculin, hein, il n'y avait pas effectivement de différence de ce point de vue-là, mais, comme j'aime aussi souvent à le dire et à me moquer, le rhodinone c'était un peu le doliprane de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on s'en servait aussi un peu pour tout et n'importe quoi, puisqu'on lui voyait beaucoup de vertus médicinales. Vous aviez une infection aux gencives, vous preniez du rhodinone en bain de bouche. Vous aviez un peu mal à la tête, vous preniez une petite gorgée de rhodinone. Vous aviez mal à l'estomac, un petit peu de rhodinone. Vous aviez un problème de peau, vous utilisiez du rhodinone en onguent. Donc voilà, c'était vraiment un usage très large, ce qui permet de comprendre pourquoi finalement il était autant répandu dans le bassin méditerranéen à l'époque romaine. Qui aussi permet de se justifier par la simplicité pour le faire. Hein, puisque, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il ne fallait pas forcément être un très grand parfumeur pour réussir à faire du rhodinone.
Et cette archéologie des odeurs, elle a permis de mesurer l'ampleur du commerce des huiles odorantes dans la Méditerranée antique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la démarche archéologique permet non seulement de pouvoir reconstruire ce qu'était un quartier de parfumeurs, que ce soit dans le cas de Pompéi, puisque le même travail sur ces quartiers de parfumeurs a été fait à Pompéi dans les années 2000, comme on l'avait fait donc à la fin des années 1990 à Délos, permet, en se joignant à la chimie, de reconstruire le parfum, mais aussi, grâce à cela, de comprendre comment on va du lieu de production jusqu'à sa destination finale, jusqu'à son exportation, puisque l'archéologie que l'on a réalisée depuis les années 90 ont permis notamment de mettre en avant les routes commerciales qui existaient, donc des routes commerciales extrêmement denses que l'on identifie justement grâce au transport des huiles, mais aussi des vins dans le bassin méditerranéen, qui d'ailleurs ne se contentent pas du bassin méditerranéen, puisque de ces fioles à parfum, de ces amphores de vin, on en retrouve dans la vallée du Nil, on en retrouve également dans le désert oriental de l'Égypte vers la mer Rouge, ce qui nous permet de comprendre pourquoi ces éléments, on en retrouve dans le sous-continent indien, parce que, eh bien, il existait annuellement des envois de flottes de navires, hein, sur des flottes assez importantes, hein, jusqu'à 150 navires, partant des côtes de la mer Rouge en Égypte pour rejoindre le sous-continent indien, avec donc des denrées produites dans l'Empire romain, exportées vers le sous-continent indien, et ensuite des éléments, effectivement, des productions du sous-continent indien ou plus largement d'Asie qui vont venir vers le bassin méditerranéen. Ça nous permet de comprendre pourquoi, par exemple, on a des parfums typiquement romains retrouvés en Inde, dans un contexte archéologique, pourquoi on a des amphores à vin gauloises en Inde, et pourquoi on se retrouve avec du poivre dans les frontières de la Germanie, dans le nord de l'Europe.
Merci Noémie Eliazor pour ce reportage. Emmanuel Bott, est-ce que notre rapport aux odeurs est différent de ceux des Romains ?
Alors oui, sans aucun doute, puisque de toute façon on a tendance à appliquer, quels que soient les domaines, notre vision des choses et des sociétés sur des sociétés antiques. Juste avant ça, un mot sur le reportage qui vient de passer, c'est pour la replacer, puisqu'il vous reste encore quelques jours pour aller la voir. C'est une exposition qui est consacrée aux travaux de Jean-Pierre Brun, qui a dirigé la chaire de technique et économie de la Méditerranée antique. Et donc c'est une exposition que nous lui avons consacrée, qui retrace ses travaux, notamment sur les vins, les huiles et les parfums en Méditerranée, et à travers quatre zones dans lesquelles il a beaucoup contribué à la recherche archéologique. En Gaule, en Italie, en Grèce et en Égypte, comme ça vient d'être dit dans le reportage.
Alors vous, Emmanuel Bott, vous faites partie d'un programme sur l'étude de l'artisanat à Pompéi, un groupe qui a travaillé sur les boutiques de parfumeurs, les tanneurs, les boulangers, bref, toutes les facettes de l'artisanat sur place. Concernant l'alimentation, on a trouvé dans cette ville plus de 40 boulangeries. Est-ce qu'on sait si l'alimentation des habitants de Pompéi est représentative de l'alimentation des Romains ?
Oui.
On a aussi trouvé tout un tas de pots de miel. On sait que ça fait partie de l'alimentation des Romains également. Enfin,
oui, quelles que soient les conditions dans lesquelles la ville se trouve, les gens ont quand même besoin de vivre, de manger, et donc ils ont besoin de commerçants, d'artisans, et donc là, on va retrouver. Ça fait partie des programmes dans lesquels on a travaillé. C'est un programme qui était porté une fois de plus par Jean-Pierre Brun sur l'artisanat à Pompéi et porté par le Centre Jean Bérard, et dans lequel nous avons pu travailler sur des parfumeurs, des tanneurs. Des boutiques de céramique, des boulangers. Et donc, ça a permis, à notre échelle, de travailler sur toute la question de la vie quotidienne, justement, des Pompéiens.
Dominique Garcia.
Ces découvertes sont assez représentatives, en fin de compte, de ces populations romaines. On sait que les soldats romains avaient droit à une ration de 800 grammes de pain par jour. Et donc, en fin de compte, voir autant de boulangeries quand on se promène dans Pompéi, c'est normal. C'était la base de l'alimentation, quoi. C'était le pain plus le reste, et parfois que le pain. Et donc, du coup, on les voit en présence. Et sur les parfums, un petit détail, moi, je trouve qui est important, c'est que dans ce jeu d'archéologue de restituer du parfum, et aujourd'hui de l'offrir au nez des visiteurs à l'exposition au Collège de France, c'est aussi pouvoir donner une définition à du vocabulaire que l'on n'avait que par les textes. Aujourd'hui, si on vous dit que votre parfum est musclé ou floral, on sait ce que ça veut dire et on sait du coup si on doit bouger dans le rayon de la parfumerie. Tandis que dans les textes anciens, on nommait des parfums, on les qualifiait et par contre on n'en connaissait pas la définition. Et donc grâce à ces expérimentations, parce qu'on n'a pas des parfums à base d'alcool, mais on l'a bien dit, c'est de l'huile qui fixe les odeurs, du coup ça permet, grâce à cette expérimentation menée par Jean-Pierre Brun et par d'autres maintenant depuis, de pouvoir donner une définition à ce vocabulaire ancien. Et donc là, c'est l'archéologie qui apporte aux langues anciennes et permet comme ça d'en savoir plus sur ces noms que l'on retrouve dans les textes.
Par rapport justement à ces définitions et puis à ces perceptions qui diffèrent selon les époques, vous avez aussi travaillé, Emmanuel Bott, justement sur la sauce poisson entre l'alimentation et l'artisanat et la parfumerie. Enfin, je pense à ça.
Oui, j'ai travaillé sur le fameux garum, donc la sauce des Romains, qu'on pourrait apparenter aujourd'hui au nokmam. Hein, donc là, moi, je m'étais intéressé à ça parce que j'avais fait ma thèse là-dessus, sur la question justement du rapport aux odeurs que pouvaient avoir les anciens, donc sans évidemment prétendre réussir à être à l'échelle d'Alain Corbin, mais en se posant des questions sur justement le rapport qu'avaient les anciens aux odeurs. Et donc, j'avais reconstitué du garum dans mon jardin. Et donc, en prenant tout simplement ce que nous disaient les textes antiques, de faire des couches alternées de poisson et de sel, pour voir d'une part le temps que ça prenait, puisque ça, les sources sont... peu prolixe sur la question, et puis d'autre part pour voir la question des odeurs que ça générait, justement, puisque en fait, à part un texte, un passage de Sénèque qui dit que c'est quelque chose d'atroce et qu'il sait pas comment ses concitoyens font pour manger ça, aucun texte antique ne dit que c'est quelque chose qui a une odeur vraiment infecte, qu'il faut fuir à tout prix. Donc là, je m'étais intéressé à ça, et en fait on se rend compte que c'est surtout dans la bibliographie récente qu'on a considéré que c'était quelque chose qui était atroce, qui devait avoir une odeur intenable, et que donc on se demandait comment les Romains pouvaient faire pour consommer ça. La réalité est bien différente.
Ouais, et puis pour poursuivre cette visite olfactive de la ville, Emmanuel Bott, vous avez aussi fait la découverte de la plus grande tannerie que l'on connaisse dans le monde romain à Pompéi, 18 bassins qui font chacun plus d'un mètre de diamètre pour 1,5 mètre de profondeur. Votre question scientifique pour le cuir, c'était: est-ce que l'étude de la tannerie de Pompéi a apporté, qu'est-ce que ça a apporté sur la connaissance de cet artisanat dans le monde romain, c'est ça?
Oui, alors ce n'est pas ma découverte, hein. C'était une fois de plus un programme. Voilà.
Oui.
Donc, la tannerie de Pompéi, elle a été découverte en 1872. Et donc ce qui nous a intéressé là-dedans, quand on a repris ce programme au début des années 2000, c'était de voir justement toute la chaîne opératoire, parce qu'au final, on ne connaissait aucune tannerie dans le monde romain, hormis celle-ci, avant qu'on reprenne la fouille. Et donc, grâce aux travaux qu'on a pu mener, on a pu reconstituer toute la chaîne de travail, la chaîne opérationnelle, et donc ce qui a ensuite été confirmé par d'autres découvertes, notamment en Gaule, et ça nous a permis de travailler, une fois de plus, on retombe là-dessus, sur la question des odeurs aussi, puisqu'il s'avère que la tannerie de Pompéi qu'on connaît, elle est à l'intérieur des murs, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, une fois de plus, ça remet sur la table la question du rapport aux odeurs. Et donc, ça nous a permis de comprendre les trois étapes qui constituent le travail du cuir, qui sont la première, ce qu'on appelle le travail de rivière, où en fait, les peaux arrivent chez le tanneur. Il n'y a plus la carcasse, mais il y a encore les sabots et les cornes en général. Et donc, par exemple, dans la fouille de la tannerie, on en a retrouvé plusieurs dizaines, voire centaines. Ensuite, les peaux, une fois qu'elles sont nettoyées, elles sont mises justement à tremper dans ces grands bassins que vous avez mentionnés. Et donc, on va les mettre à tremper avec ce qu'on appelle de la noix de galle. C'est une excroissance qui pousse sur le chêne et qui est un produit tannant. Et donc, on va alterner, comme dans le cas du poisson, cette fois on alterne les peaux de bête avec ce produit-là. Et puis, au bout de quelques semaines, ces peaux vont devenir du cuir. Et puis, on a aussi découvert la dernière étape, qui est celle du travail du cuir à proprement parler, une fois qu'il est créé. Et donc, on va nettoyer ces peaux. Et puis, pour assoupir le cuir, pour pouvoir le travailler, le découper, en faire des objets, des chaussures, des bourses, ou plein d'autres objets, on va utiliser de l'alun, et qu'on a découvert là aussi en grande quantité dans la tannerie de Pompéi. L'alun qui, du coup, vient, dans ce cas précis, de l'île de Lipari, au nord de la Sicile. Et ça, c'est un autre élément qu'apporte l'archéologie ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, maintenant, dans les fouilles qu'on mène partout en Méditerranée, quand on trouve des amphores à alun de Lipari, on sait que c'est lié au travail du cuir, au travail du textile.
Eh bien, comment faire parler, non pas le tannant, mais comment faire parler les murs de Pompéi et quels sont les grands projets à venir pour ce site archéologique ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Hélène Dessalles, Dominique Garcia et Emmanuel Bott, nous parlons de Pompéi et de ses nouveaux secrets. Pompéi, cette mine d'or pour les archéologues. Comme le dit le responsable des fouilles actuelles, le site est un peu à l'archéologie classique ce que le Vatican est à l'Église catholique, un lieu qui a largement contribué au développement de l'archéologie moderne et des techniques de fouilles. Vous en dites quoi, Dominique Garcia ?
Bah oui, effectivement, un grand laboratoire à ciel ouvert où de nombreuses générations d'archéologues se sont succédées, où des outils nouveaux ont été mis en œuvre pour pouvoir repérer le site. Aujourd'hui, là aussi, grâce au directeur actuel du parc de Pompéi, on se préoccupe du devenir du site, de la préservation de ces vestiges, parce qu'il y a du pillage à Pompéi, il y a le fait que les ruines ne sont pas en permanence protégées, il y a des problèmes d'hydrologie, donc il faut aujourd'hui veiller à ce que ce site puisse être des archives de fouilles pour des archéologues du futur, et donc aujourd'hui les archéologues ont cette double approche, continuer à exploiter les données, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de l'information et de la transmettre, donc en fin de compte, conserver pour conserver n'a pas de sens, mais aussi en faire profiter un public de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, Pompéi c'est plus de 4 millions de personnes, et ça aussi, ça endommage un petit peu le site. Et donc, veiller comme ça à faire du tourisme culturel durable sur le site archéologique le plus fréquenté au monde, tout en étant ou en demeurant un site sur lequel les archéologues essaient de répondre aux questions qui se posent.
En effet, le surtourisme sur place, 4 millions de visiteurs par an, le deuxième site touristique le plus visité d'Italie, après le Colisée de Rome. Vous évoquez des problèmes d'hydrologie sur place. Hélène Dessalles, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est lié à l'histoire des fouilles, en fait, puisque en fait, il reste encore 2/5 de Pompéi à fouiller, et ces zones qui n'ont pas été dégagées sont, en fait, on a vraiment les couches de lapilli, ces micro-perponces qui se sont déposées, ça peut atteindre jusqu'à 5 mètres, 6 mètres de haut avec la couche végétale dessus, et ça fait une sorte de talus. Et donc dans laquelle l'eau circule, percole. Ça a même été des terres agricoles jusqu'à encore assez récemment. Et cette eau, elle percole ensuite vers les parties dégagées. Et c'est en fait cela qui a donné lieu à des écroulements qui ont été très médiatisés dans les années 2015. En fait, c'était vraiment lié à ces infiltrations d'eau dans les structures antiques, mais pas seulement, dans les restaurations aussi des structures. Parce qu'en fait, la particularité de Pompéi, comme les premières fouilles remontent au milieu du 18e, les vestiges sont laissés à l'air libre dans les années 1760, ont restauré en même temps qu'ont dégagé. Et donc, ces restaurations, en fait, elles souffrent aussi, l'eau les attaque. Et actuellement, on se pose aussi la question de savoir comment restaurer ces restaurations civilisations, et pas seulement les vestiges antiques. C'est une aussi des particularités de Pompéi, cette sorte de stratigraphie des murs de l'époque antique à nos jours.
Oui, Dominique Garcès interroge un peu notre rapport aux ruines aussi, tout ça.
Bien entendu, on est dans, en France où on pratique ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est-à-dire on fouille les sites archéologiques pour laisser libre ensuite à l'aménagement du territoire. Là, dans le cas de Pompéi, c'est un site classé à l'UNESCO, un site important, donc il est hors de question de construire, mais face à ces vestiges dont on sait qu'ils ne seront pas éternels, parce que l'éternité n'existe pas, on se doit effectivement de prendre des mesures de conservation et puis imaginer que l'étude aussi, le travail des archéologues, est peut-être aussi la meilleure des conservations, parce que ça produit du savoir que l'on peut échanger comme aujourd'hui.
Merci Dominique Garcia. En tout cas, pour poursuivre ces échanges de savoir, vous évoquiez aussi, il y a quelques instants, le fait que ce soit un laboratoire à ciel ouvert, où c'est un espace où on peut tester de nouveaux outils. Vous testez justement de nouveaux outils, Hélène Dessel notamment, en travaillant sur justement cette question des travaux de rénovation dans la ville. Vous travaillez sur ces questions-là? Vous étudiez l'architecture, mais vous ne fouillez pas. Vous pouvez peut-être nous raconter comment on fait pour faire parler les bâtisses sans les fouiller.
Oui, alors.
Ça, c'est grâce à un instrument très précieux.
C'est en cela que Pompéi est aussi un laboratoire exceptionnel, puisqu'on a en fait la possibilité d'étudier tous les murs dans des bâtiments qui ont été dégagés depuis finalement assez longtemps, depuis la première découverte du site. Et ces murs, donc sans fouiller, ben en fait, un mur en tant que tel, alors il y en a plus de 10 000, si on compte vraiment les murs linéaires à Pompéi, ce qui est considérable, 400 maisons pour vous donner une idée. En fait, ils racontent toujours une histoire si on essaie de les séquencer. Et donc, par exemple, dans la Villa Diomède, on a vu que certains murs, on avait des portions qui remontaient au 2e siècle avant Jésus-Christ, d'autres à peine reconstruites peu avant l'irruption. C'est vraiment une observation très minutieuse des matériaux, dont la façon dont ils sont agencés, des liens entre les murs qui permet de reconstituer l'histoire d'un mur, mais au-delà d'un bâtiment, et puis même de la ville. Il y a d'autres techniques qui sont développées, et là je pense que Dominique pourrait aussi nous en parler, qu'on a sollicitées pour connaître la présence de murs qu'on ne voit pas. À l'œil, c'est le rôle de tout ce qu'on appelle les détections géophysiques, et en particulier un instrument qui est très utilisé, qui est le radar. Alors ça consiste à envoyer donc des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le sous-sol et qui vont donc rencontrer des obstacles et comme ça révéler des anomalies, une présence d'objets. En quelque sorte, on a une cartographie du sous-sol en 3D. Et par exemple, dans le cas de la Villa Diomède, on avait bien décidé de ne pas fouiller puisque le bâtiment avait été fouillé dès le XVIIIe siècle. On a pu suivre la chronologie des murs. On a pu, par ces outils, c'est l'université de Padoue et l'université de Salerne qui ont réalisé ces prospections, on a pu mettre en évidence, dans le sous-sol, la présence de structures, donc en l'occurrence de pièces souterraines, mais aussi de murs de la première phase de la villa qui avait ensuite été enfouie par les reconstructions et les transformations du bâtiment. Donc ça, c'est un outil, je pense, important et qui est extrêmement performant, le radar, qui nous apprend vraiment ce qu'il y a, les murs qu'on ne voit pas.
Ça, c'est, on peut avoir un plan de site uniquement par l'utilisation de cette technique. Emmanuel Bott, vous souhaitiez rebondir.
Oui, mais c'est ce que disait Hélène, ce qui est très stimulant à l'entendre parler, c'est que c'est un laboratoire à ciel ouvert dans lequel il y a toujours à faire. Et donc c'est ça qui est intéressant avec le fait qu'il y ait les 2/5 qui soient préservés. C'est que on sait que dans les prochaines décennies, il y aura de nouvelles technologies qui permettront sans doute d'explorer sans les dégager, donc en essayant de les préserver, ces choses. Et puis donc là, on se trouve à la croisée entre la science telle qu'on la pratique, et puis le poids des traditions. Si on se rappelle, par exemple, il y a une vingtaine d'années, on a remis en cause la question de la date de l'éruption du Vésuve, qui est passée du 24 août 79 au 24 octobre. Alors que, pour le coup, d'un point de vue archéologique, il y avait dans les maisons les traces qui montraient bien qu'on ne pouvait pas être en été.
Oui, il y avait en effet des fruits, des indications sur des pièces de monnaie.
Il y avait des fruits, il y avait des braseros étaient sortis dans les pièces. Donc, quand on connaît le climat en compagnie, au mois d'août, on se doute qu'il n'y a pas besoin de chauffage. Les Pompéiens aussi portaient des vêtements qui ne sont pas caractéristiques de tenues d'été, on va dire. Et puis, en effet, il y a eu deux découvertes. La première d'une monnaie de Titus, où il porte le titre d'impérator pour la 15e année. Or, on sait par un document découvert sur le mur d'Adrien que le 8 septembre de l'année 79, il est encore impérator pour la 14e année. Donc, on était forcément après le 8 septembre.
Voilà, et donc merci en tout cas à vous trois d'avoir restitué avec nous l'histoire de ce qui s'est passé le 24 octobre 79, hein, plutôt le 24 octobre que le 24 août. Merci beaucoup. Pour prolonger l'écoute, je vous invite à vous plonger dans l'ouvrage préfacé par vous, Dominique Garcia, Pompéi, la magie des ruines, un voyage dans les rues de la cité antique, paru en 2024 aux éditions Alizio Histoire. Merci Hélène Dessalles, merci Emmanuel Bott et merci Dominique Garcia. Tout de suite, un tout autre sujet. Faut-il redéfinir l'obésité? C'est la chronique avec science.
Comment définit-on l'obésité? Jusqu'à présent, les médecins se reposaient sur une norme établie au début du XXe siècle et dont vous avez probablement déjà entendu parler, l'indice de masse corporelle, qu'on appelle communément IMC. Il s'agit du poids en kilos divisé par la taille au carré en mètres. Et pour faire simple, on dit qu'on a un IMC normal entre 17 et 25, un surpoids entre 25 et 30 et une obésité au-delà de 30, avec une obésité massive lorsque l'indice dépasse les 40. Selon cette définition, l'obésité touche près de 17% des adultes français et dans certains pays du continent américain, c'est près de la moitié de la population qui est touchée. Il s'agit donc d'une véritable pandémie d'obésité qui s'abat sur le monde et qui atteint plus d'un milliard de personnes. La définition actuelle de l'obésité ne la considère pas comme une maladie en soi, mais plutôt comme un facteur de risque d'autres pathologies qui peuvent être mortelles, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Dans ces conditions, une connaissance approfondie de l'obésité est essentielle pour traiter efficacement ce problème de santé publique internationale. Martine Laville est professeure émérite de nutrition à l'université de Lyon 1. Elle est co-auteure de cette publication avec 57 autres chercheuses et chercheurs et c'est publié dans le Lancet Diabète et Endocrinologie.
L'avantage de cette définition, c'est qu'elle était assez simple et que ça permet d'avoir des données épidémiologiques. On s'est aperçu quand même assez rapidement, d'une part, qu'en fonction de l'ethnie, il fallait un peu changer ces index. Par exemple, les personnes vivant en Asie ont une morphologie différente et en fait vont se retrouver avec des excès de masse grasse plus importantes dès des indices de masse corporelle à 27-28. Donc en fait, les normes devraient changer en fonction et sont pondérées en fonction de l'ethnie. Et puis aussi, on a des modifications corporelles en fonction de l'âge. Et tout ça pour revenir à dire qu'en fait, le problème de l'obésité n'est pas un problème de poids, mais un problème de masse adipeuse. Et donc, l'indice de masse corporelle n'est qu'un reflet, cet excès de masse adipeuse, et un reflet qui est limité.
Pour illustrer les limites de la notion d'IMC, prenez par exemple un athlète. Il est particulièrement musclé, donc lourd, et aura un IMC élevé alors même qu'il est en parfaite santé. Alors, si l'IMC ne suffit pas, comment fait-on pour définir l'obésité? Eh bien pour ça, il faut revenir aux bases de la définition d'une maladie en partant de ses symptômes. Pour ce qui est de l'obésité, la première chose, c'est l'augmentation de la masse adipeuse, c'est-à-dire de la part de gras stockée. L'IMC ne suffit donc plus, il faut pouvoir mesurer la quantité de masse grasse, et pour ça, il existe des techniques d'imagerie très sophistiquées mais qui ne sont pas accessibles dans tous les pays. Néanmoins, la force de cette publication, c'est d'avoir pu réunir des experts de diverses régions du monde pour proposer des outils universels, comme des mesures de tour de taille ou de tour de hanche, par exemple. Ensuite, il y a des conséquences de cette obésité sur l'organisme. Et là, les auteurs distinguent deux catégories. La plus grave, l'obésité clinique où l'excès de graisse atteint les organes et qui nécessite une prise en charge active. Puis, en dessous, l'obésité préclinique avec un excès de masse graisseuse, mais pas de conséquences sur les organes, et qui doit tout de même faire l'objet d'un suivi pour éviter son aggravation.
La morale du papier, c'est quand même, on ne peut pas se contenter de mesures de poids et des choses simples, il faut vraiment avoir un examen clinique complet de la personne. Et vraiment regarder à la fois le retentissement de cet excès d'adiposité et puis l'existence d'autres facteurs de risque. Si cette personne-là, outre son problème d'excès d'adiposité, a un tabagisme ou a d'autres risques, vit dans un environnement très délétère, etc. Pour finir, bien que son obésité soit encore au stade préclinique, elle est à haut risque d'avoir d'autres ennuis de santé. Et donc là, il va falloir être aussi actif presque que si on était déjà au stade clinique, parce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui vont se combiner avec cet excès d'adiposité qui vont mettre la personne en danger. Donc, c'était aussi un des messages, c'est revenir à l'examen clinique de la personne et le regarder dans sa globalité, dans son risque global.
Cette nouvelle approche est essentielle pour mieux prendre en charge les patients et sortir de l'idée que l'obésité n'est qu'une affaire de volonté. Le danger, c'est que cette discrimination peut même affecter la prise en charge puisque, par crainte ou culpabilité, certains patients renoncent à leurs soins. Il faut donc renforcer le soin en n'oubliant jamais de lutter contre les causes environnementales et sociales de cette pandémie qui ne cesse de croître.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyer-Thompson, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumadabi. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.